Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, cette année, nous sommes encore très nombreux à cette fête régionale de lutte ouvrière. Hein, c'est bien la preuve que notre courant politique, le courant communiste révolutionnaire trotskiste, est bien vivant dans le monde ouvrier. Et cette année, là, je ne fais pas de discours, mais je passe tout de suite la parole à Nathalie Arthaud.
Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades. Alors cela fait maintenant bien 15 jours que l'on nous amuse avec l'histoire du remaniement gouvernemental. Ça a commencé sur l'ère de Macron va donner un nouveau souffle à son quinquennat, et maintenant ce sont les journalistes eux-mêmes qui parlent de nom d'événement. Ce qui est clair, c'est que les rats quittent le navire. Même les plus proches de Macron ne croient plus en leur jeune héros parce qu'il est en train de sombrer dans l'impopularité comme Hollande et Sarkozy en leur temps. Mais exactement comme ses prédécesseurs, Macron fera le sale boulot que la bourgeoisie et la logique du système capitaliste lui imposent. Il va continuer à faire supporter le poids de la crise aux classes populaires et donc à s'attaquer aux travailleurs, aux retraités, aux chômeurs, aux migrants. Les mesures annoncées début septembre, le quasi-gel des retraites et des allocations, la suppression de dizaines de milliers d'emplois aidés et de milliers de postes dans la fonction publique, n'étaient que le hors-d'œuvre. Le plan de résistance, bien il est là, maintenant sur la table, c'est une nouvelle attaque sur les retraites. Le gouvernement a trouvé le truc pour que l'on n'y comprenne plus rien. Il change tout le système de calcul en instaurant une retraite à points. Points dont on ne connaîtra la valeur qu'au moment de liquider les droits. Mais qui peut croire que les travailleurs en sortiront gagnants? Cette réforme, comme toutes celles qui l'ont précédée, est conçue pour faire baisser les pensions de retraite et pour inciter les travailleurs à prendre leur retraite toujours plus tard. Le gouvernement se targue de mettre en place un système plus équilibré, plus égalitaire et plus juste, parce qu'il veut supprimer les régimes dits spéciaux. Mais qu'est-ce qu'il y a de juste et d'égalitaire dans cette société capitaliste? Les milliards qu'une toute petite minorité concentre dans ses mains est le fruit du vol du travail de la grande majorité au travers d'exploitation. Où est la justice quand on est condamné à galérer de petits boulots en période de chômage parce que le patronat supprime des emplois partout? Le gouvernement présente comme un progrès le fait que nous serons tous mis à la même enseigne. Nous toucherons tous en proportion exacte de ce que l'on a cotisé tout au long de notre carrière. Mais si tu touches toute ta vie un très bas salaire, eh bien tu auras droit à une retraite de misère. C'est ça leur justice. En fait, ce qui nous rapprocherait un peu de la justice, ce serait que le patronat paye intégralement pour les retraites des travailleurs qu'il a exploités toute une vie durant. Tout le reste, ça relève du mensonge. Le gouvernement nous recèle par exemple la fable de la liberté. En comptant ces points, chacun serait libre de choisir le montant de sa retraite et la date de son départ. Mais on est libre de quoi quand on appartient à la classe des exploités? Quand tu nais dans une famille de la classe ouvrière, eh bien, tu fais ce que l'on te dit de faire. Tu as deux jambes, deux bras, eh bien, tu vas bosser. Et si tu es chômeur, il faut tout accepter. Les études que tu as faites, le métier pour lequel tu as été formé, tes contraintes familiales, tout ça, ça ne compte pas. Tu prends le boulot que tu trouves et le salaire qui va avec. C'est ça le lot de la grande majorité des travailleurs. C'est de faire des boulots qu'ils n'ont pas envie de faire. Des boulots qui payent mal et qui déglinguent la santé. Des millions de salariés sont ballottés de petits boulots en petits boulots, de temps partiel en temps partiel. Et même quand on a un emploi stable, il faut accepter de bosser sur n'importe quel horaire. De faire des dizaines de kilomètres pour aller travailler. Bien sûr, il y a aussi des travailleurs plus qualifiés, dont les compétences sont plus recherchées par les entreprises. Ils ont parfois plus de marge de manœuvre, plus de liberté. Leurs conditions de travail et leurs salaires peuvent être meilleurs. Il y a même des femmes et des hommes qui sont heureux au travail. Ils font un métier qu'ils ont choisi, qui les épanouit. À tel point que travailler jusqu'à 62 ans ne leur pose aucun problème. Des chirurgiens, des journalistes de plus de 60 ans, il y en a un bon paquet. On connaît des acteurs, des artistes de 90 ans. Mais ce ne sont pas eux qui forment les gros bataillons du monde du travail. La très grande majorité des travailleurs compte les mois, puis les jours qui les séparent de leur retraite. La retraite, elle est vécue comme une libération pour la grande majorité des travailleurs, parce que dans cette société capitaliste, le travail, c'est une prison. Travailler sur chaîne, tenir les cadences, répéter des milliers de fois le même geste, porter des charges lourdes, travailler de nuit ou en horaire décalé, bien sûr que c'est usant physiquement. Mais l'usure, elle peut être aussi morale. Quand on roule sous la charge de travail, qu'on subit en permanence la pression de la hiérarchie, quand on est un pion que la direction déplace, humilie, que ce soit en usine ou dans les bureaux, eh bien le travail devient vite insupportable. La pénibilité, ce n'est pas l'exception, c'est la règle. Marx avait un mot pour décrire cela, l'aliénation du travail. Alors oui, individuellement, on est piégé par cet ordre social. Chaque travailleur ne peut que se soumettre à la domination patronale et à ce système injuste. Mais collectivement, nous pouvons les combattre, à condition d'en être conscients. Alors oui, nous avons toutes les raisons de rejeter Macron, de rejeter son mépris et sa politique anti-ouvrière. Mais il faut aussi et surtout rejeter la classe sociale qu'il représente et le système qu'il défend. Alors, à bas l'exploitation et à bas le système capitaliste. Macron, il ne fera qu'un temps. Mais la bourgeoisie, elle est installée au pouvoir depuis plus de 2 siècles. Elle domine l'économie du haut de ses milliards. En 2017, l'envolée des bourses a fait gagner 1 000 milliards de dollars aux 500 plus grandes fortunes mondiales. Le propriétaire de LVMH, Bernard Arnault, a vu son patrimoine s'accroître de 20 milliards, soit 1 300 euros toutes les 2 secondes. Pourquoi accepte-t-on une telle domination? Si cette classe dirigeait bien et que l'économie se développait et qu'elle débouchait sur un progrès général de la société, on pourrait peut-être se dire que l'exploitation et le parasitisme que cette classe opère a une justification et qu'elle mérite de diriger. Mais c'est exactement l'inverse qui se passe. Le capitalisme est en bout de course. Il est enfoncé dans une crise dont il ne peut pas sortir. Les marchés sont saturés, la surproduction est généralisée et elle condamne l'économie mondiale au marasme. Pour accroître ses profits, la bourgeoisie n'a que 2 solutions. Piquer des parts de marché à ses concurrents, c'est-à-dire mener une guerre commerciale, qu'elle prenne la forme du libre-échange ou du protectionnisme. Et 2e solution, accroître l'exploitation des travailleurs, c'est-à-dire faire reculer les conditions de travail, imposer aux salariés de travailler plus, de façon à comprimer les salaires et les emplois. À cela s'ajoute le poids extraordinaire pris par la finance. Elle ajoute non seulement son parasitisme, mais elle menace en permanence de faire plonger l'économie dans un nouveau krach. Le capitalisme est par nature un système économique chaotique, parce qu'il est gouverné par le marché, la concurrence et par la loi aveugle du profit. Mais la finance et la spéculation qui va avec amplifient l'instabilité générale. À la moindre annonce économique, à la moindre secousse politique, à la moindre incertitude, des masses fantastiques de capitaux se jettent sur tel ou tel secteur, affluent ou quittent tel ou tel pays. Et c'est ce qui se passe, par exemple, en ce moment, en Turquie ou en Argentine. Et ce sont les travailleurs de ces pays qui en payent le prix fort. Mais demain, à qui le tour? Tous les dirigeants économiques sont d'accord sur une chose. Nous allons tout droit vers un nouveau krach semblable à celui de 2008. La seule interrogation qu'ils ont est de savoir quand
ce krach se déclenchera.
Autrement dit, même eux, même ceux qui dirigent et profitent du système capitaliste, n'y croient pas. La bourgeoisie, elle a mérité un temps son appellation de classe révolutionnaire. Or, bien sûr, elle a toujours fait ses profits sur la peau des travailleurs. Elle a accumulé ses premiers capitaux dans le sang et la boue, comme disait Marx, au travers du commerce triangulaire, de l'esclavage et d'une exploitation féroce dans les bagnes industrielles qu'elle avait construites. Mais contrairement à l'immobilisme de la noblesse de l'Ancien Régime, qui vivait du parasitisme pur et simple, la bourgeoisie réalisait ses profits en construisant des usines, des routes, des ponts, des chemins de fer. Son système reposait sur la production et sur le développement de l'industrie, une immense machinerie qui a fait naître un système productif qui a dépassé tout ce que l'humanité avait inventé. Mais aujourd'hui, la bourgeoisie et le capitalisme n'ont plus rien de progressiste. Or, bien sûr, la vie continue. Il y a des progrès scientifiques, des innovations. Le capitalisme a l'art de créer de nouveaux besoins. Et puis, il a l'art aussi de façonner de nouvelles habitudes sociales. Prenez la connexion Internet. Elle est devenue un élément presque aussi indispensable que la machine à laver. Mais à côté de ça, les familles ont toujours du mal à s'acheter de la viande, du poisson, du fromage. Elles ne peuvent pas se payer une mutuelle ou le permis de conduire des enfants. Le smartphone a pénétré jusque dans les régions les plus reculées d'Afrique ou d'Asie, et il y est utile. Mais ce sont des régions qui n'ont souvent pas l'électricité, pas même l'eau courante. Les dirigeants des pays riches parlent de relancer la conquête spatiale, mais ils disent ne pas avoir d'argent pour maintenir les hôpitaux de proximité, pour rénover les chemins de fer, pour entretenir les routes ou les ponts et éviter les catastrophes comme celle de Gênes, par exemple. La société et l'économie marchent sur la tête parce qu'on ne peut pas décider collectivement en fonction des intérêts du plus grand nombre. Les choix fondamentaux pour développer harmonieusement la société nous échappent. Ils sont laissés dans les mains de la classe capitaliste et au hasard de l'initiative privée et du marché. Et c'est un immense gâchis. Le premier de ces gâchis, c'est le fait que des millions de femmes et d'hommes sont condamnés à l'inactivité alors qu'ils pourraient être utiles pour la société. Au lieu de servir pour construire, rénover, faire de la recherche, des centaines de milliards alimentent quotidiennement les marchés financiers et la spéculation. Alors que la science avance et permet une maîtrise croissante de la nature, nous sommes incapables de contrôler les conséquences de notre propre activité économique sur la planète et sur le climat, et nous sommes donc incapables d'enrayer la catastrophe écologique. Les capitalistes sont devenus un obstacle au progrès collectif. Et à l'échelle de la société, le rôle réactionnaire de la bourgeoisie ressort par tous les bouts. La crise du capitalisme, les rivalités entre les bourgeoisies nationales nous ont déjà menés à deux guerres mondiales. Aujourd'hui, des millions de femmes et d'hommes sont chassés de leur pays par la guerre, l'oppression ou la misère. Ils s'entassent dans les camps infâmes ou sont traqués et condamnés à errer de pays en pays quand ils ne meurent pas dans la traversée de la Méditerranée. Il y a partout des foyers de guerre qui menacent de se transformer en une guerre plus générale parce qu'ils sont aussi le théâtre de rivalité des grandes puissances impérialistes. Et puis, on assiste partout à la montée de l'extrême droite et à l'emprise croissante des idées réactionnaires. Dans toute l'Europe, la crise économique, les plans d'austérité, le chômage, le désespoir face à l'avenir nourrissent les courants nationalistes, xénophobes et anti-européens. En Hongrie, en Autriche, en Italie, des partis d'extrême droite sont au pouvoir. En Suède et en Allemagne, les dernières élections ont marqué un renforcement de l'extrême droite. Et partout, la situation peut dégénérer, comme cela a été le cas il y a peu à Chemnitz, en Allemagne, où divers groupes d'extrême droite, y compris qui se revendiquent néo-nazis, se sont livrés à des chasses à l'homme contre des étrangers, contre un restaurateur juif et des militants de gauche. Penser que nous sommes ici, à l'abri de tels affrontements, est un leurre. Oui, la situation est grave, mais on ne se protégera pas des dangers de l'extrême droite en faisant la morale aux travailleurs qui prêtent l'oreille aux idées nationalistes. On ne pourra combattre le poison de ces idées dans la classe ouvrière qu'en leur opposant les idées des travailleurs et la nécessité de riposter à la lutte de classe que le patronat mène tous les jours. Militer pour montrer aux travailleurs que les politiciens de la bourgeoisie cachent les responsabilités du patronat et la folie de leur système derrière des boucs émissaires est la seule perspective. Militer pour défendre parmi les travailleurs une politique de classe contre la bourgeoisie et son ombre pourrissant est la seule perspective. Les Le Pen, les Salvini et compagnie disent défendre les idées, les intérêts des plus pauvres en empêchant les migrants de mettre un pied en Europe. Mais ils sont aussi anti-ouvriers qu'ils sont anti-migrants. En Autriche, le gouvernement a allongé le temps de travail légal pour porter la journée à 12 heures, la semaine à 60 heures. En Italie, Salvini, ce ministre de l'Intérieur qui a fermé les ports italiens aux bateaux de secours aux migrants, a aussi expliqué, je le cite, « C'est bien de lutter contre la précarité, mais il ne faut pas que cela nuise aux entreprises. Autrement dit, comme les autres, il est à plat ventre devant les patrons et il les aidera à faire pleuvoir les coups sur les travailleurs. » À toutes les époques, les patrons ont cherché à dresser les travailleurs dits nationaux contre les étrangers. En face, le mouvement ouvrier a opposé le mot d'ordre de travailleurs de tous les pays, unissez-vous. Les premiers militants socialistes puis communistes ont opposé l'internationalisme au patriotisme, le drapeau rouge au drapeau tricolore. Eh bien, nous devons retrouver ces valeurs du mouvement ouvrier. Nous devons nous démarquer du chauvinisme et du nationalisme que tous reprennent à leur compte, y compris les partis dits de gauche. Tous ceux qui montrent du doigt l'étranger, l'Europe ou l'Allemagne exonèrent les patrons bien français de leur responsabilité dans la crise et dans le chômage. Les responsables de la crise, du chômage, de la précarité et de cette société de plus en plus barbare, eh bien c'est la classe capitaliste. C'est elle qu'il faut combattre et renverser. Il en va des intérêts des exploités, mais il en va aussi de l'intérêt de l'humanité tout entière. La crise, les inégalités, l'exploitation ou la montée des idées réactionnaires ne sont pas le résultat de mauvais choix économiques que l'on pourrait changer du haut des institutions. Elles sont la résultante d'un ordre social. Le fond du problème, ce n'est pas tel ou tel homme politique. Ce ne sont pas ses bonnes intentions vis-à-vis des travailleurs. C'est l'ordre social dans lequel il gouverne. C'est la classe sociale et les lois économiques auxquelles il se soumet. Tant que la bourgeoisie règne du haut de sa propriété privée, c'est elle qui détient le pouvoir et impose ses intérêts. Confronté à cette réalité, Léon Blum avait parlé en son temps du mur de l'argent. C'était dans les années 30. Plus récemment, Hulot en a reparlé en dénonçant ce que lui a appelé le poids des lobbies. De fait, tout gouvernement, quelles que soient ses déclarations et même ses intentions, gère les affaires de la bourgeoisie comme s'il était son conseil d'administration. Alors, les politiciens qui prétendent à la tête de l'État, dans le cadre de cette société capitaliste, pouvoir imposer une politique qui redistribuerait mieux les richesses, ou alors prendrait mieux soin de la planète, ou encore qui régulerait le capitalisme pour éviter les crises, eh bien, cet homme ou cette femme politique est un illusionniste. Il n'y a pas d'autre issue que de renverser le capitalisme et le pouvoir de la bourgeoisie et de réorganiser l'économie sur des bases collectives et planifiées démocratiquement. Tout dans la situation de crise actuelle montre que les travailleurs ne parviendront pas à défendre leurs conditions d'existence sans renverser le pouvoir de la bourgeoisie. La moindre revendication se heurtera au pouvoir patronal. Récemment, j'ai été interpellée sur le fait qu'il faudrait revendiquer le SMIC à 2000 euros net parce que les 1800 euros net que j'avais mis en avant dans la présidentielle comme une nécessité pour les travailleurs sont déjà dépassés par l'inflation. C'est très juste. Mais la question n'est pas tellement là. Qui peut penser que le patronat acceptera de porter le SMIC ne serait-ce qu'à 1400 euros net? Avec la crise, dans cette situation où la bourgeoisie est à l'offensive pour reprendre des droits aux travailleurs, elle ne lâchera rien. Chaque revendication sérieuse venant des salariés sera intolérable pour la bourgeoisie et elle ne peut que faire l'objet d'une guerre sociale. Eh bien, il faut le dire. Si l'on veut assurer nos besoins vitaux, des salaires et des pensions de retraite dignes, si on veut imposer de répartir le travail entre tous, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra résorber le chômage, eh bien, il faut être prêt à se battre jusqu'à exproprier la bourgeoisie et jusqu'à lui arracher le pouvoir. Pour que le combat des travailleurs pour leurs intérêts matériels aboutisse, ils doivent se mener avec la conscience communiste révolutionnaire qu'il faut exproprier la bourgeoisie et la remplacer au pouvoir. La lutte pour les revendications quotidiennes immédiates et la lutte pour l'émancipation totale des travailleurs ne doivent faire qu'un seul et même combat. Militer pour les intérêts des travailleurs, c'est militer pour la révolution sociale. Cette conscience, elle est loin de l'état d'esprit actuel des travailleurs. Mais les tâches qui se posent à nous ne se déduisent pas du moral de la classe ouvrière à tel ou tel moment. Elles se fondent sur la réalité objective de la lutte de classe et de la situation. Elles se fondent sur le fait que la classe ouvrière est une classe, que rien n'attache à cette société. Comme le disait Marx, la classe ouvrière n'a que ses chaînes à perdre. Alors oui, ce sont bien les travailleurs qui peuvent mener le combat contre la bourgeoisie et représenter l'avenir, à condition d'en être conscients. Les travailleurs sont en première ligne dans la lutte de classe. Il suffit de franchir la porte d'une entreprise pour comprendre qu'il faut se défendre au quotidien. Que ce soit pour résister aux cadences, pour se faire payer ses heures de travail, ou tout simplement pour se faire respecter. Cette résistance, elle s'exerce de plein de façons. On peut traîner les pieds, on peut faire semblant de ne pas avoir entendu tel ou tel ordre. On peut pétitionner, se rassembler pour aller voir collectivement la direction. On peut aussi débrayer et on peut se mettre en grève. Et c'est là, au cours de ces actions collectives, que les travailleurs découvrent leur poids social et qu'ils découvrent leur capacité à changer le rapport de force avec le patronat. Cette prise de conscience de la réalité de la lutte de classe, cet apprentissage de la lutte de classe, il peut se faire quasi naturellement. Découvrir que l'on peut se défendre collectivement et inverser le rapport de force avec la bourgeoisie, c'est une expérience que peuvent faire beaucoup de travailleurs. Mais la conscience politique d'avoir à renverser la bourgeoisie et à prendre le pouvoir est une toute autre affaire. Cette conscience-là, eh bien, elle nécessite une politisation. Et elle dépend de l'existence d'un parti. Elle dépend de l'existence de militants communistes révolutionnaires. La seule perspective qui s'ouvre à nous, c'est de faire confiance dans la classe ouvrière et de l'aider à accéder à cette conscience que la tâche de transformer la société dépend d'elle et qu'elle en est capable. Oui, les travailleurs sont capables de prendre le pouvoir et de l'exercer mille fois mieux que la bourgeoisie. Collectivement, la classe ouvrière a la capacité de réorganiser l'économie au service du plus grand nombre. Les grands médias et les politiciens nous expliquent que sans cette bourgeoisie, rien ne se ferait, parce que c'est elle qui entreprend et parce que c'est elle qui sait diriger. Mais prenez ce qui se passe à l'échelle de n'importe quelle grande entreprise. Dans l'écrasante majorité des cas, la bourgeoisie ne dirige pas, elle encaisse. Elle a pris des parts dans l'entreprise, elle est actionnaire, et elle se contente de ramasser les bénéfices. Elle ne met jamais les pieds dans l'entreprise. Pour diriger ces entreprises, elle paye du haut en bas de la hiérarchie toute une armada de mercenaires qui sont obsédés par la rentabilité. Et c'est sur les ouvriers, les employés, les comptables, sur ceux qui sont au bas de l'échelle, que retombent les problèmes et les conséquences de leurs décisions. Ce sont les travailleurs qui connaissent le travail. Ce sont eux qui résolvent les problèmes techniques et qui font tourner la boutique. Oui, c'est la classe ouvrière qui fait déjà tourner toute la société. Elle le fait aujourd'hui pour le compte de la bourgeoisie, et bien elle est capable demain de la faire tourner pour son propre compte. Les travailleurs n'ont pas besoin d'actionnaires qui ne sont que des parasites pour produire des voitures, des salades, ni pour éduquer, soigner ou faire circuler les hommes et les femmes. Oui, les travailleurs et les classes populaires sont tout à fait capables de diriger la société. Et prenez les salariés des EHPAD, qui se dévouent aux côtés des anciens pour un salaire de misère. Prenez les ouvriers, qui s'esquintent la santé sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics. Prenez les ouvriers des chaînes de montage. Prenez les bataillons du nettoyage, du gardiennage, de la grande distribution. Ces femmes et ces hommes savent ce que cela veut dire, travailler et devoir se serrer la ceinture. Ils représentent mille fois mieux la vie et les intérêts de la grande majorité de la population. Et nul doute que s'ils accédaient au pouvoir, eh bien ils auraient, eux, pour priorité, de satisfaire les besoins essentiels des plus pauvres. Et tous les problèmes qui apparaissent aujourd'hui comme insolubles, loger tout le monde, soigner, donner du travail, de l'éducation à tous, accueillir les migrants, eh bien tous ces problèmes trouveraient leur solution, parce que les décisions ne seraient plus guidées par les intérêts égoïstes d'une minorité. Alors oui, vive les travailleurs, vive leur lutte dans la perspective de la révolution sociale.
Debout, les barrières de la terre.